Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS. On va parler avec elle de football et de la Coupe du Monde féminine, ou plutôt de la Coupe du Monde 2019, puisque quand on dit Coupe du Monde masculine, on dit pas masculine, justement, on dit Coupe du Monde. Carole, vous avez publié... pour le compte de l'UNESCO et du mouvement Positif Football, et l'IRIS bien sûr, un document juste avant le lancement de la Coupe du Monde, quand le football s'accorde au féminin. Alors, peut-être déjà un rappel historique. Le football féminin a connu son heure de gloire au début du XXe siècle et a ensuite été banni. Donc peut-être commençons par ce succès qui avait disparu des mémoires d'un football féminin qui enchantait et déchaînait les passions au début, juste après la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est aussi ça qui est important de retenir dans le développement de la pratique, c'est qu'on a tendance à considérer qu'elle est très récente, alors même que les premiers matchs, et l'histoire révèle que les premiers matchs ont été réalisés quelques années seulement après les premiers matchs internationaux des hommes. Et donc on estime à peu près à 1880-1881 le premier match opposant deux sélections. Et puis petit à petit ce développement se poursuit, notamment en Europe et principalement en Angleterre, et on voit pendant la Première Guerre mondiale une attractivité du football et de plus en plus de femmes, d'ouvrières employées à la place des hommes partis au front dans des entreprises, dans des usines, se prêter au jeu du football. Un certain nombre de clubs sont créés et pendant cette période-là, on assiste à un certain nombre de développements de clubs, mais également de matchs de charité qui sont loin de passer inaperçus puisqu'ils rassemblent parfois même 53 000 personnes comme lors d'un match à Noël 1920, et qui justement montre aussi que s'il y avait un peu de curiosité pour aller voir ces femmes jouer, il y avait aussi un vrai intérêt quand on sait que les finales à l'époque ne rassemblaient pas plus de 30 000, 40 000 personnes. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de noter, c'est cette histoire qu'il y a pu avoir de cette pratique féminine. Les sources sont assez faibles, mais on arrive quand même à trouver un certain nombre d'éléments, et c'est surtout voir comment est-ce que cet essor était vraiment assez fort, et comment est-ce qu'il a été stoppé pour des raisons
Alors ça a été effectivement, donc le développement actuel n'est pas une création, mais plutôt une recréation de quelque chose qui existait. Comment expliquer à l'époque l'engouement que suscitait ce football féminin avec des audiences non pas télévisées bien sûr, mais dans le stade, qui étaient aussi importantes que celles des matchs masculins?
Alors plusieurs raisons peuvent être avancées, et notamment ça a été le travaux d'un certain nombre de chercheurs et d'historiens. La première, c'était le fait qu'il y avait une volonté de voir du spectacle, et donc tout match qui le rassemble des hommes ou des femmes prêtées à une activité dominicale pour aller se rendre au stade. La deuxième raison, c'est...
Et c'était une activité spectacle un peu comme quelque chose d'extravagant, ou non, c'était vécu comme une vraie pratique sportive?
Alors, il y a eu deux analyses qui ont été faites, et ça va vraiment dépendre des périodes, où pour certains, on considérait que c'était un peu... c'était les femmes qui se mettaient en spectacle, et c'était un peu quelque chose d'une activité sortant de l'ordinaire, et qu'il fallait ne pas rater sous aucun prétexte. Alors que d'autres considéraient qu'il y avait une réelle performance sportive et qu'elle était appréciée au même titre que celle des hommes. La seconde raison qui peut expliquer aussi cet intérêt assez fort de la part d'un certain nombre de spectateurs à se rendre au stade, c'est que ces matchs étaient souvent réalisés dans le cadre de matchs de charité. C'est-à-dire que les fonds récupérés pour aller voir, quand on achetait son ticket pour aller au stade, étaient ensuite reversés à une caisse qui permettait de venir en aide aux blessés de guerre, aux orphelins et aux usines qui avaient été mise en difficulté à cause de l'effort de guerre. Donc il y avait une vraie fibre presque patriotique d'aller voir ces femmes jouer pour venir soutenir d'une certaine façon l'effort de guerre qui était mené.
Mais on aurait pu soutenir l'effort de guerre par d'autres moyens. Donc il y avait aussi une attractivité du spectacle. Les matchs, d'après les échos que vous avez eus, les études historiques que vous avez faites, les matchs étaient plaisants à voir.
Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui a tendance à être souvent oublié, même si un certain nombre de photographies, de résumés, montrent qu'il y avait une attractivité, qu'il y avait du spectacle, qu'il y avait des buts, qu'il y avait des mouvements défensifs assez intéressants, qui a tendance à être un peu effacé aujourd'hui. Et surtout, c'est ce spectacle et ce caractère très physique des matchs qui était précisément pointé du doigt par un certain nombre de ses détracteurs qui considéraient que c'était une pratique bien trop dangereuse pour les femmes, surtout dans une période de fin de Première Guerre mondiale où l'un des objectifs était aussi de repeupler, entre guillemets, le pays, ou, et plus largement l'Europe, où était la pratique la plus importante. Donc c'est, on a eu un basculement dans les années 1920-1925, où vraiment de cette pratique que certains appelaient de folklorique, d'autres de tout à fait sportive, au même titre que la pratique masculine, on est plutôt basculé sur une volonté de protéger et d'éloigner les femmes des terrains. Alors pas en interdisant absolument tous les matchs, mais plutôt en interdisant d'une part toute compétition, mais également d'avoir un accès à une pratique plus régulière.
On dit souvent en France que c'est Pétain qui avait interdit le football féminin, mais finalement les restrictions apportées à la pratique féminine du football étaient bien antérieures.
Oui, alors dans le cas français, on commence à voir une espèce de tarissement de cette pratique vers les années 1935, où d'une activité assez intéressante et assez développée au tournant des années 1920, tout petit à petit voit cette progression diminuer. Et donc, au final, la directive de Pétain et la directive de Vichy d'interdire cette pratique féminine, elle intervient un peu comme le coup de grâce apporté à cette pratique sportive. Mais le football n'a pas été le seul, puisqu'un certain nombre d'autres sports, considérés comme trop physiques ou trop violents, ont également été interdits.
Alors bon, c'est peut-être rappelons quels étaient les arguments mis en avant pour interdire ou limiter la pratique sportive pour les femmes.
Oui, il y en avait beaucoup, ils étaient aussi extravagants les uns que les autres. Le premier, c'était la question de la pudeur, où il était pour certains absolument inconcevable de voir des femmes pratiquer une activité en public et surtout en tenue qu'ils considéraient comme trop légère. Il y avait aussi des arguments de santé, et c'est sur lequel c'est aussi cela qu'on retient, avec une activité physique beaucoup trop importante qui risquerait de provoquer des dégâts irréversibles au niveau des fonctions reproductrices. Et là encore, le contexte de post-Première Guerre mondiale et donc de volonté de...
Le tout, bien sûr, aucunement basé sur une étude médicale.
Il y avait un certain nombre de médecins qui avaient mené des expériences et qui considéraient qu'il y avait une potentialité de conséquences irréversibles sur le corps des femmes et qui pouvaient engendrer une infertilité qui aurait été catastrophique dans une époque de post-Première Guerre mondiale.
Vient la libération, les femmes acquièrent le droit de vote en 1944. Est-ce qu'elles regagnent le droit de pratiquer le sport et le football ?
Non, effectivement, à partir de 1945, les choses ne vont pas tout de suite se mettre en œuvre. On va dire le véritable déclic va intervenir plutôt une vingtaine d'années plus tard, à la fin des années 60, 68-69, où il va y avoir l'émergence d'un certain nombre d'initiatives, notamment à Reims, mais on peut aussi penser à Toulouse, et à Juvisy, où des clubs commencent à se former de façon assez naturelle, et puis petit à petit organisent leurs pratiques.
Alors on se rappelle qu'à l'époque, en 68, le siège de la Fédération Française de Football avait été occupé. On disait le football aux footballeurs, c'est mai 68. Est-ce que le développement du sport féminin, du football féminin, a à voir avec cette contestation, les batailles pour le droit des femmes, les batailles pour l'avortement? Est-ce que c'est lié à cela, ou est-ce que ce sont des chemins tout à fait parallèles?
J'aurais tendance à dire que c'est plutôt des chemins parallèles, mais qui s'entrecroisent par différents aspects, puisque au final, si c'est une bataille qui a démarré dès la fin des années 60 et 68-69, il y a véritablement eu un point, une accélération à partir de 1970 avec la reconnaissance de la pratique féminine par la Fédération Française de Football. Et donc c'est aussi ça qui a permis de venir institutionnaliser et de venir mettre au clair une pratique qui jusqu'à présent n'était pas illégale, mais elle était simplement tolérée et non encadrée. Et c'est précisément cette reconnaissance-là qui a permis d'accélérer un certain nombre de mise en place de championnats qui interviendra quelques années plus tard, mais également de équipe nationale qui a pu avoir une existence officielle à partir de ce moment-là.
Alors quand même, à l'époque, ce développement suscite de nombreuses résistances avec des préjugés, vous en évoquez certains dans le rapport, qui font sourire aujourd'hui ou qui peuvent mettre en colère, selon. Mais donc, il y avait là encore une force de résistance par rapport au fait que des femmes puissent jouer au foot.
Bien sûr, et c'est on le voit à travers les archives que l'on peut trouver à l'INA, on le voit à travers un certain nombre d'articles qui sont publiés, de journaux, mais également on le voit aussi à travers peut-être aussi la fédération qui n'avait pas encore compris à quel point la place des femmes dans le football allait devenir quelque chose d'essentiel. Et c'est assez intéressant, surtout de se rappeler du chemin parcouru aujourd'hui, quand on voit que c'est quelque chose qui est, au final, assez récent, et avec un vrai basculement à partir de 1998, et notamment Aimé Jacquet, en tant que directeur technique national, qui donne un coup d'accélérateur à cette pratique-là, et puis ensuite avec l'arrivée de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française, qui permet de mettre en œuvre concrètement une féminisation, pas simplement sur les terrains, mais également au niveau de l'arbitrage, au niveau des entraîneuses, mais également au niveau de la fédération, avec une féminisation, avec des vice-présidentes, des secrétaires, qui incarnent cette réelle féminisation. Et c'est d'autant plus important de le souligner qu'un certain nombre de travaux au début des années 90 n'hésitaient pas à mettre en avant le caractère rétrograde de la fédération, parce qu'il n'y avait pas une véritable considération qui était faite de la part des femmes, où on considérait que la pratique féminine intervenait dans les questions annexes qui devaient être traitées en fin de congrès, au même titre que le football folklore, etc. Et il y a vraiment eu en l'espace d'une quinzaine, vingtaine d'années, grâce à des petits pas faits par des pionniers, par des pionnières, mais également avec cet accélérateur de Aimé Jacquet, mais également de Noël Le Graët, d'arriver à la situation où on est aujourd'hui, qui est certes pas encore optimale, mais qui a connu des progrès incontestables depuis des années.
Alors là, on parle des fédérations, dans les clubs, des gens qui ne sont pas connus pour leur engagement féministe, comme Louis Nicolin, par exemple, a joué un rôle quand même très important, pionnier pour développer la première équipe professionnelle en France, avec Montpellier, et bien sûr, Jean-Michel Aulas. Donc là aussi, ils étaient un peu en avance sur leur temps, ou ils ont rattrapé le retard qui existait.
Oui, exactement. En fait, pour le cas de Montpellier et le cas de Lyon, c'est quelque chose qui est assez intéressant à analyser, puisqu'on voit qu'il considère qu'un espace est libre à ce niveau-là, et qu'il est au contraire qu'ils ont tout intérêt à venir investir. C'est une démarche à la fois de bon sens, mais également d'entrepreneur, de chef d'entreprise, qui considère qu'il y a un vrai marché à développer à ce niveau-là, et que si la pratique masculine est largement développée, popularisée et très largement démocratisée, celle féminine est encore à ses balbutiements, et qu'il va falloir l'accompagner, l'encadrer pour permettre la mise en place d'un club extrêmement performant, mais plus largement, de tirer vers le haut un championnat qui aujourd'hui est certes assez hétérogène, mais qui se distingue sur la scène nationale et continentale comme un des championnats pour le moins intéressants, avec évidemment en tête de proue l'Olympique Lyonnais et ses nombreux titres.
Vous avez parlé de l'action de Noël Le Graët, qui s'est battue pour avoir la Coupe du Monde qui soit organisée en France, et donc qui a vraiment milité pour, qui a fait les efforts nécessaires. Il a également féminisé les instances dirigeantes de la fédération en mettant des femmes à des postes de responsabilité, et dont on sait qu'elles ne sont pas des faire-valoir, quand on connaît un peu leur tempérament aux unes et aux autres. Et puis il y a en même temps des reproches qui sont faits. On dit oui, quand même, les filles sont pas payées comme les garçons, etc. Alors est-ce que et ce thème du verre à moitié plein, à moitié vide, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est toujours une question un peu compliquée, même si, il faut essayer de répondre à cette question dans une temporalité autre que celle de l'immédiateté et du focus simple qui est fait sur la Coupe du Monde, où on a l'impression, à l'occasion de cette compétition, de découvrir les différents mots qui peuvent exister dans le football. Il y a plusieurs choses. D'une part, au niveau de, et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, les progrès qui ont été faits par la fédération ont été immenses en l'espace de quelques années. En revanche, il y a encore un certain nombre de travaux à mener, à la fois sur le terrain, avec la féminisation des équipes, avec un meilleur accès à tous les niveaux de ces joueuses, mais également au niveau des arbitres, des entraîneuses et des dirigeantes au sein de clubs, des districts et des ligues. Pour le coup, et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, hein, c'est la question de la rémunération qui est très largement et très souvent mis en avant. Et c'est aussi sur ça qu'on insistait au sein du rapport, c'était le fait que le modèle économique de la pratique féminine est encore parfaitement balbutiant. Et on se trouve aujourd'hui à une heure de choix, à savoir quel est ce modèle économique et comment est-ce qu'on veut le définir. Est-ce que deux choix s'offrent à nous ? Soit on va plutôt se diriger vers un modèle économique basé sur celui des hommes, où on sait qu'il est parfaitement imparfait, avec toutes les dérives ou les défauts qu'on peut lui trouver, ou au contraire, on va faire le choix d'un modèle sui generis qui permet d'être, qui devra être inventé, pensé, réfléchi en fonction des source de revenus du modèle de partenariat, de sponsoring qui est propre à la pratique féminine. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire que aujourd'hui la pratique féminine et le football féminin entre guillemets est un peu une heure de choix qui ne doit pas se penser dans 5, 10, 15 années, mais au contraire aujourd'hui pour pouvoir arriver à imaginer une pratique viable pour demain. Et ça fait aussi référence à la question des primes. Aujourd'hui, donner des primes ou par exemple des salaires de la même hauteur du côté masculin que du côté féminin, ce serait sur le papier extrêmement intéressant et parfaitement égalitaire, mais d'un point de vue économique, ça n'aurait pas de sens puisque ce serait quelque chose qui ne serait pas viable. Et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est le côté viabilité sur le long terme et non la photographie.
Oui, parce qu'on peut remarquer que les protestations contre l'inégalité des primes entre hommes et femmes ne viennent pas des femmes elles-mêmes. Les joueuses de l'équipe de France, beaucoup se sont exprimées en disant, il y a la FIFA, on a la même répartition des primes que les garçons, sauf que la prime donnée par la FIFA est moins importante que pour les garçons par rapport aux droits télé qui sont supérieurs dans ce cas.
Pour le coup, ça c'est quelque chose qui est vrai en France, où il y a assez peu de joueuses qui prennent position sur ces questions-là. En revanche, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que ça c'est quelque chose qui est en train de bouger à l'international. On a évidemment en tête les revendications des Américaines qui ont porté plainte à l'égard de leur fédération en mars dernier pour justement obtenir une égalité.
Parce qu'elles rapportent plus d'argent que les garçons.
Tout à fait. En fait, et pour avoir bien en tête les différents chiffres, pour avoir remporté une finale de Coupe du Monde en 2015, elles ont touché une prime trois fois inférieure à celle donnée aux garçons qui n'avaient simplement atteint que les huitièmes de finale. Et alors même que le business model du football aux États-Unis est très largement basé sur la pratique féminine. Et donc il y avait cette espèce d'incohérence entre les règles dictées par la FIFA et de l'autre côté la réalité du terrain. Et ce qui est aussi intéressant au-delà de l'exemple américain, c'est ce vecteur, comment est-ce que le football est un vecteur de revendication sociale, sociétale, voire même économique dans un certain nombre de pays. Et on peut penser là à différents exemples, notamment en Amérique latine, où les Argentines ou les Chiliennes considèrent aujourd'hui que pratiquer le football, que s'investir dans ce domaine-là, ou même être présente à la Coupe du Monde, est une façon de revendiquer leurs droits, leur place au sein de la société, encore assez patriarcale, notamment en Argentine, et que ça permet, par ce biais-là, de montrer à quel point les femmes peuvent porter un certain nombre de messages et devenir des rôles modèles pour des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes et même des hommes.
Vous parliez des États-Unis où l'équipe féminine a beaucoup plus de succès que l'équipe masculine. Comment expliquer la différence de niveau? Quelles sont les places fortes du football féminin en termes de compétitivité? Et on voit que, ne serait-ce qu'à travers l'exemple américain ou chinois, que ça ne correspond pas au même modèle que les places fortes du football masculin.
C'est ça qui est aussi intéressant à analyser avec la pratique du football, c'est qu'on va voir dans le classement FIFA, et si on reprend le classement FIFA pour les femmes, on va voir que se dégage un certain nombre de pays qui n'ont pas forcément été autant touchés que des pays occidentaux, d'Europe occidentale, par des injonctions ou des interdictions qui les ont éloignés trop longtemps des terrains. Et donc dans ces cas-là, sur le classement mondial, les États-Unis, le Canada sont évidemment devant, mais également un certain nombre de pays d'Europe du Nord, les pays nordiques, Danemark, Suède, Norvège, et également Angleterre, Allemagne. Et la France également tient à su rattraper son retard en une quarantaine d'années, faisant fi d'un certain nombre d'interdictions qui n'étaient pas aussi présentes dans un certain nombre de pays.
Est-ce que l'on peut dire que dans les pays où les droits des femmes est le mieux respecté, l'équipe de football est la plus compétitive ?
Ça va. Il faudrait faire une corrélation exacte entre ces éléments-là, mais il n'est pas impossible qu'il y ait effectivement cette corrélation, même si des exceptions peuvent exister. Mais ça peut être l'objet d'une nouvelle étude.
Vous montrez dans votre étude le développement des équipes féminines qui jouent des compétitions internationales. Au départ, quelques dizaines et maintenant presque 160.
Oui, effectivement, et c'est aussi ça qui est encourageant, et c'est aussi pour ça qu'il faut plutôt parler de verre plein que de verre vide. C'est cette popularité du football, mais également sa mondialisation. En 1991, lors de la première Coupe du Monde organisée par la FIFA, il n'y avait que 51 équipes, sélection nationale féminine, qui étaient présentes. 27 ans plus tard, en 2018, on a fait le compte, il y en avait 559, et qui se répartissent sur absolument tous les continents. Donc c'est assez intéressant à différents égards. D'une part, il y a une démocratisation de ce football, puisqu'il est pratiqué par trois fois plus d'équipes, mais également une mondialisation, puisque quasiment aucun continent n'est épargné, et on voit même, si on fait une analyse un peu plus fine en fonction des confédérations, que c'est précisément la Confédération africaine, la CAF, mais également la Confédération asiatique, qui sont les plus actives sur le sujet et qui ont mis, qui ont permis à des fédérations et à des commissions féminines d'encadrer et de développer cette pratique féminine.
Donc il y a un développement qui touche tous les continents, sans exception. Pourtant, il n'y a pas de pays arabe qui soit qualifié pour cette Coupe du Monde féminine.
Oui, effectivement, on peut noter une absence de pays arabes au sein de cette Coupe du Monde qui peut être expliquée par plusieurs raisons. La première, c'est en raison du faible nombre d'équipes qualifiées, 24, qui donne une très large majorité aux équipes européennes, mais également au fait que les équipes, notamment, on peut penser au Liban, on peut penser à la Jordanie ou aux Émirats Arabes Unis, qui participaient aux éliminatoires, se sont fait éliminer par des équipes appartenant à cette zone, à cette confédération asiatique, qui était bien plus forte. En revanche, si on se décolle un peu, si on prend du recul par rapport à cette Coupe du Monde, on peut voir qu'il y a encore des progrès à faire sur cette zone asiatique concernant le développement de la pratique féminine et plus largement de la féminisation du sport, où l'histoire, on va dire, de cette pratique est assez récente. Les premiers matchs, souvent officiels, ne datant que d'une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc il faut aussi le temps que cette culture, que cette pratique infuse dans les esprits. On voit, en revanche, on voit dans cette zone asiatique de plus en plus de mouvements, et notamment de mouvements de l'action civile, de la société civile, qui se mobilisent pour justement permettre d'accélérer cette féminisation. On le voit notamment avec le fait de permettre aux femmes d'assister à des matchs de football, et notamment en Iran, où un certain nombre d'associations se mobilisent pour permettre, pour rendre la possibilité aux femmes de revenir au sein des tribunes, mais également avoir une activité sur le terrain, comme on a pu le voir par exemple avec des équipes de futsal extrêmement performantes et qui sont devenues en l'espace de quelques années des véritables phénomènes au sein de la société. Donc c'est aussi ça qui est intéressant à noter, cette diversité, ce dynamisme qui peut exister dans ces pays-là, même si on est encore, il y a un chemin important qui reste à parcourir, mais qu'il faudra suivre avec la plus grande attention dans les mois qui viennent.
Alors, Aragon avait dit que la femme était l'avenir de l'homme. Diriez-vous que la femme est l'avenir du football ?
Ça, c'est incontestable. Et à ce titre-là, la FIFA, je pense, l'a bien compris, puisque l'on voit de plus en plus une volonté de la FIFA de réellement mettre en œuvre sa féminisation. Si la première Coupe du Monde est intervenue en 1991, lors du premier symposium sur le football féminin en 1995, Sepp Blatter avait considéré que l'avenir du football était féminin. Pourtant, il a fallu quelques années pour tout ce processus de se mettre en place, puisque ce faudra attendre 2018 pour que la FIFA publie une première stratégie globale pour le football. Elle a évidemment un intérêt d'égalité pour promouvoir cette pratique féminine, mais il serait assez naïf de croire que c'est simplement pour la beauté du jeu. C'est aussi parce qu'il y a un intérêt économique, puisqu'elle a bien compris que si le vivier de pratiquants et de consommateurs du côté masculin était très largement entamé, le vivier côté féminin était quant à lui entièrement à conquérir, et c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a énormément d'initiatives, de colloques, de stratégies qui sont publiées à ce sujet, et quelque part on ne peut que s'en réjouir, même s'il y a un côté évidemment mercantile à ça.
Merci Carole Gomez, je renvoie à la lecture de votre rapport « Quand le football s'accorde au féminin », publié sous l'égide de l'UNESCO et de Positive Football et de l'IRIS.
Merci.